Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, Les Tontons Farmeurs, une émission qui...
Les Tontons Farmeurs, l'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture.
Une émission pour vous, les agriculteurs.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Une émission de TV Agri en partenariat avec l'association Co-Farming et nos partenaires, la Banque Populaire et le Groupe Agrica, deux partenaires qui savent prendre des risques en nous soutenant et je les en remercie. Alors, ils sont bronzés, nos tontons farmeurs de la semaine. Tout d'abord, Johan Dumont, agriculteur en Côte d'Or et cofondateur d'AgriMind Lab. En une phrase, Johan, que proposez-vous ?
Bonjour Jean-Paul, donc AgriMind Lab, c'est la mise en groupe d'agriculteurs pour travailler la prise du pouvoir de décision sur leurs exploitations ou leurs groupes et renforcer leur leadership par le coaching.
Et comme son accent en témoigne, il nous vient tout droit du pays de Claude Nougaro. Toulouse, bien entendu, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Bouzin, négociant spécialisé en soja, mais aussi cofondateur de la plateforme Talk AG. Quel est l'objectif de ta plateforme, Paul ?
Salut Jean-Paul, Talk AG, c'est la plateforme du savoir agricole. D'un côté, une appli pour partager l'expérience et de l'autre côté, le web pour retrouver tout ça sous une bibliothèque.
Et sans oublier la Vendée, bien sûr, qui est représentée par notre troisième tonton farmeur de la semaine, François Arnoux. Alors François, en Vendée, on fait rien comme les autres. Partout, les rassemblements sont limités à 5000 personnes, mais au Puy du Fou, on va jusqu'à 9000. Bon, pas de polémique, mais est-ce que les maïs au moins ont été bien arrosés par les dernières pluies? Parce que c'est vrai que c'était bien sec avant, non, François?
Oui, bonjour tout le monde. Donc, effectivement, on a eu un petit peu d'eau ce week-end entre 20 et 40 mm, qui était très attendu. C'était super pour les maïs. Voilà, ça va limiter la casse quand même sur la fin de cycle.
Bon, alors,
sinon, je suis tout seul dans mon tracteur. Hein, je ne suis pas 9000 personnes.
Ok. Alors, chaque semaine, on accueille plutôt des députés, des sénateurs. Peut-être même qu'un jour, le ministre de l'Agriculture acceptera-t-il, qui sait, de participer à notre émission. Cette semaine, comme je vous le disais, on fait une exception. On reçoit une syndicaliste, à savoir Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Madame Lambert, qu'est-ce que vous leur avez dit au gouvernement ? Vous leur avez promis quoi ? Vous avez des dossiers sur eux ? Non, mais c'est pas possible. Comment se fait-il ? Et même Barbara Pompili n'en revient pas d'avoir accepté une telle dérogation. Qu'est-ce que vous avez fait ? Et vous savez que les associations écolo, elles sont vexées, ils ne vont pas se laisser faire. Si on en croit la lettre écrite hier par une quinzaine d'associations au ministre de l'Agriculture, vous le savez, la rentrée risque d'être un peu chaude, non ? Christiane Lambert ?
Ah oui. Oui. Déjà l'été est très chaud parce que le climat est compliqué, et mon collègue l'a dit. Sur le front syndical, effectivement, c'est les conséquences de la sécheresse. C'est aussi le référendum d'initiative partagée, tous les anti-animaux là, qui sont au boulot pour collecter leurs signatures. Et puis, c'est effectivement le sujet des betteraves et les impasses phyto qui touchent la betterave et bien d'autres. Mais sur néonicotinoïdes, oui, c'est vrai qu'on s'attendait à une vague forte. Elle arrive.
Alors, j'espère que vous êtes chaud.
L'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture.
Et oui, parce qu'on va commencer par l'actu de la semaine. Qu'est-ce qui t'a énervé, Paul, en particulier cette semaine dans la presse ou ailleurs ?
Alors moi, ce n'était pas forcément cette semaine, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, la condamnation concernant le lac de Caussade. Voilà, moi, ce qui me choque, c'est que pour moi, l'eau, c'est la vie, notamment dans l'agriculture, et je ne comprends pas comment on peut être contre le stockage de l'eau. Voilà. D'accord.
Lac de Caussade, faut expliquer. Donc, c'est un lac qui a été construit par des agriculteurs avec le président de la Chambre d'agriculture, la coordination rurale du Lot-et-Garonne, c'est ça, et qui aujourd'hui, donc,
et qui aujourd'hui ont été condamnés par rapport à cette construction. Alors, je ne remets pas en cause je rentrerai pas dans le débat de l'interdiction, mais plutôt dans le fait que un coup s'est accordé, ensuite c'est interdit, et on sent bien du lobby derrière de l'interdiction. Or, je comprends pas comment on peut être contre l'eau, contre le milieu aquatique et contre irriguer des cultures, surtout quand on voit la sécheresse que nous connaissons actuellement.
Et toi, Johan, c'est quoi l'actu qui t'a énervé ?
Ben moi, c'est encore une fois, on a constaté que le retrait d'une matière active sans réelle solution de substitution a conduit le monde betteravier à une perte de compétitivité qui est assez exceptionnelle, d'où une perte de revenus pour les producteurs. Et au-delà de ça, le système médiatique, là, depuis l'annonce du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Agriculture de réautoriser les NNI, tire à boulets rouges sur la décision gouvernementale en publiant des solutions de substitution qui sont quand même assez loufoques. Et ben, à côté de ça, ben, l'opinion publique qui est encore plus contre le monde céréalier, le monde betteravier et toute l'agriculture. Et ben, l'agriculture, une fois de plus, se retrouve sans solution réelle parce que l'autorisation de l'insecticide est quand même assez cadrée et de plus en plus mal vue par les voisins.
Non mais c'était quand même un miracle, personne n'y croyait le 5 août que la dérogation allait être acceptée. Voir ça.
Ouais, sauf qu'elle est quand même relativement limite. L'agriculteur qui va utiliser l'insecticide sur sa parcelle va être très limité derrière sur la rotation. Donc c'est quasiment une non-décision.
Si
Ah,
toi
les amis,
aussi,
on revient de
tu
loin
t'es...
quand même, hein. Pardonnez-moi, Dervien. On était quand même sur une situation avec la France, seul pays d'Europe à l'avoir mis dans la loi. Donc pour changer la loi, il faut une loi. On ne pouvait absolument pas faire valoir une dérogation. On a ressorti l'article 53 du règlement européen qui permet de revenir pour raisons sanitaires. Et donc là, il y a eu un choix politique fort. Et le ministre de l'Agriculture, fort de son diplôme d'ingénieur agronome, montre une certaine crédibilité, y compris vis-à-vis de l'opinion. Est entendu à Matignon, est entendu à l'Élysée, mais certains n'y croyaient pas du tout. Une loi pour changer la loi sur le sujet des néonicotinoïdes. Voilà, on revient de très très loin. Alors, oui, c'est vrai que les betteraves, ça ne fleurit pas. Plante bisannuelle qui ne fleurit pas la première année, donc pas de risque pour les abeilles. L'arrobage des semences intervient dans le sol. L'engagement qui est pris, c'est de ne pas mettre de culture qui ensuite, mais deux cultures, hein, pas 2 années, deux cultures qui, des cultures qui ne soient pas mellifères. Moi, je trouve que c'est une ouverture. En tout cas, ça a ramené un bol d'oxygène dans la plaine betteravière. J'ai eu plusieurs échos favorable. Et puis, c'est quand même montré que quand il y a une impasse avérée et un ministre qui écoute et qui comprend, on peut finalement déverrouiller certains verrous qui étaient bien rouillés jusque-là.
Alors moi je trouve que les 3 derniers ministres, ils ont été un peu transparents. Ce nouveau ministre-là, le feeling, il passe bien avec les professionnels?
Bon, ils étaient très différents, les 3 ministres précédents, mais on a là un ministre ingénieur agronome. Donc déjà, vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis de ses collègues, il sait de quoi il parle. Et il écoute et il comprend. Ensuite, c'est la new politique, quoi. C'est, je prends un sujet, je m'y attache, je le règle. Moi, je souhaite qu'il fasse pareil sur l'irrigation, parce que ce qu'a dit Paul tout à l'heure, on est dans un pays quand même invraisemblable. On ne capte que 1,7% de l'eau de pluie, quand d'autres pays en captent plus de 20%. Et sur les 10 dernières années, on a augmenté de 1,3% nos réserves d'eau, c'est-à-dire zéro, quand les autres pays européens ont augmenté de 13% leurs réserves d'eau. Il y a des pays qui anticipent le changement climatique. Nous, en France, on nous met des boulets aux pieds et il y a trop de gens qui ne veulent pas regarder le climat qu'on va avoir et qui résonnent trop avec les yeux dans le rétroviseur.
Et là, on a
Oui, tout à fait. Surtout quand on voit en plus les prévisions de Météo France qui s'accélèrent avec des sécheresses de plus en plus fortes et de plus en plus récurrentes. Alors, dans le sud-ouest, nous, de plus en plus, les cultures d'été sans eau, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Donc, ça devient essentiel de pouvoir capter l'eau l'hiver pour la redistribuer l'été. Je pense que c'est fondamental aujourd'hui et c'est une erreur. Ce sera une erreur de ne pas le prendre ce sujet à bras le corps aujourd'hui.
Et là aussi, on a l'impression que ça s'améliore un peu la perception des lacs collinaires, non?
Oui, on améliore avec la chaleur.
Ça a été très politisé aussi avec la dernière affaire qu'il y a eu, c'était le lac de Sivens. Aujourd'hui, malgré tout, dans l'opinion publique générale, je pense pas qu'il y ait un frein par rapport à des lacs. Au niveau biodiversité, ça en apporte aussi. Donc, je vois pas bien le frein écologique par rapport à un lac, ce qu'apporte un lac aujourd'hui.
Christiane?
Ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup raisonnent les grands barrages d'antan. On ne va plus faire les grands barrages d'antan. Il a raison, c'est la personne qui intervenait avant moi, j'ai oublié
Paul,
son prénom,
Paul,
de
Paul,
dire
Paul.
qu'aujourd'hui on parle de Paul, de retenue collinaire, de lacs. Certains journalistes, pour les expliquer à l'opinion, parlent de grands bassins, de rétention, mais on parle aussi de projets territoriaux, de gestion de l'eau et de multi-usages. Aujourd'hui, beaucoup de bassins de rétention de lacs collinaires servent aussi, lorsqu'il y a incendie, pour que les pompiers puissent venir pomper, servent aussi à réalimenter certains cours d'eau pour remonter les niveaux d'étiage et éviter que les poissons meurent tous. Aujourd'hui, les pêcheurs sont affairés à changer les poissons de rivière parce qu'elles s'assèchent les unes après les autres. Il faut aussi intégrer ces éléments-là. Et puis, irrigation égale diversification des cultures. Il y a des cultures qu'on peut faire quand on a accès à l'eau, qu'on ne peut pas faire en système sec. Aujourd'hui, par exemple, dans le Maine-et-Loire, pas de contrat, pas d'irrigation, pas de contrat semence, quelle que soit la semence qu'on veut cultiver. Or, les productions de diversification, pour beaucoup d'entre elles, elles ont besoin d'eau.
Et François,
oui,
qui est...
tout à fait.
Vas-y, Paul.
Et quand on regarde notamment en plus les plans stratégiques, enfin, alors, moi je pense notamment plan stratégique protéinique qui a quand même poussé notamment dans le sud-ouest également, sans eau, comment faire de soja sans eau pour faire de la protéine. Voilà, tout va ensemble. Et quand vous avez évoqué la question des ruisseaux, aujourd'hui on a des ruisseaux à sec par la sécheresse. Et justement, les lacs permettent de redonner de l'eau dans ces ruisseaux.
Oui. Nous, dans le sud Vendée, on a aussi cette expérience maintenant depuis plusieurs années où on a eu un gros programme de stockage de l'eau. Et bon, effectivement, au départ, ce n'était pas forcément toujours bien compris. Maintenant, les gens, les gens de la société nous disent bah, « Tiens, comment ça se fait que j'ai encore de l'eau dans mon puits ?» Alors qu'il y a quelques années, ils n'avaient pas d'eau. Donc, ça nous permet de tenir effectivement les niveaux d'eau dans les ruisseaux, dans les puits, dans les cours d'eau, en été, qui n'était plus possible avant, et les gens disent bah, « Tiens, c'était quand même une bonne idée ». Moi, j'ai des voisins qui étaient contre au départ, ils disent « Explique-moi », et maintenant, ils le mesurent, eux, réellement. Effectivement aussi, ça nous donne des accès à des productions à valeur ajoutée, qui nous aident bien dans des années difficiles comme on a depuis plusieurs années, notamment en production de semences, en légumes, et il faut bien avoir en tête que les donneurs d'ordre de toutes ces productions nous les donne que si derrière il y a une garantie de résultat, et la garantie de résultat, c'est, ça passe par de l'irrigation, ça passe par de l'eau, qu'on maîtrise aujourd'hui parce qu'on a tous les outils connectés, les sondes qui nous permettent de mettre la bonne dose au bon endroit au bon moment, donc on ne gaspille pas l'eau parce qu'en plus c'est des réserves qui ont un certain volume, donc a fortiori on mesure encore mieux ce qu'on a de disponible, donc il faut absolument le gérer au mieux. Et on sait le faire, on sait tous le faire d'ailleurs sur l'ensemble du territoire, parce que tous ces outils connectés maintenant, ils sont très bien divulgués, très bien utilisés. Encore faut-il qu'on ait la possibilité de stocker cette fameuse eau, et on a les moyens aujourd'hui de le faire, et les résultats sont là. Les résultats sont là.
Alors, Alexandre Testu nous dit...
Comment pour travailler, pour avancer. Le président Macron, en campagne électorale, dans le Tarn, avait dit « Je suis favorable à l'irrigation, à la rétention d'eau ». On a patiné beaucoup avec les différents ministres de l'écologie. On avait réussi à travailler avec Mme Wargon pour identifier 50 projets d'irrigation en France, imminents, bloqués pour différentes raisons, et sur lesquels on voulait avancer, avec l'ambition d'en débloquer 7 cette année, 15 l'année prochaine. On a retrouvé Antoine Payon, conseiller agricole à Matignon, à qui on avait parlé de ce sujet aussi. J'ai transmis ce jour au ministre de l'Agriculture les projets que nous avions amenés à Mme Wargon, qui s'était engagée à les porter. Donc, il faut maintenant que le ministre de l'Agriculture convainque Mme Pompili que sur ce sujet aussi, il faut, principe de réalité, avancer intelligemment. Donc, ce n'est pas l'eau égoïstement que pour les agriculteurs. On est bien toujours dans les priorités hiérarchisées. 1, l'eau potable. 2, l'équilibre des milieux. 3, l'eau économique. Mais l'eau économique, comme l'eau, l'agriculture, c'est l'alimentation, c'est un besoin premier, c'est la souveraineté. Il ne faut pas que l'agriculture passe toujours au second plan. C'est l'alimentation des Français. C'est la souveraineté.
On passe la parole aux auditeurs.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Et vous pouvez nous contacter aussi via Twitter en mentionnant le hashtag TTF. Et justement, on a une question. Alexandre Testu, enfin, c'est pas une question, c'est une remarque qui dit « Pourquoi ne pas demander l'extension de cette dérogation au blé tendre pour les mêmes raisons que la betterave ?» Il y a le maïs aussi dans les
tuyaux. Il faut mettre le pied dans la porte. Il faut voter la loi, déjà. J'ai vu comment il y a un tollé aujourd'hui. Et il faudra être méthodique, c'est-à-dire... Ce qui est dit pour l'instant par le ministre, c'est enrobage et pas traitement foliaire. Donc ça, c'est ce qui est écrit pour l'instant dans le texte qui est sorti de la discussion entre le ministère, la CGB, l'Interpro et les deux COPS, principales COPS céréalières. Donc il va falloir avancer pas à pas. et être méthodique.
Et nous, on
et à
va.
vouloir tout de suite, on peut tout perdre. Hein. À vouloir ouais. tout de suite, on peut tout perdre. Donc, il va falloir être stratège.
Et nous, on va avancer dans le dossier la semaine qui est comment rebondir après une campagne qui s'annonce cata. Alors, on a demandé à Frédéric Biguier, il est responsable commercial du groupe Soufflé pour la région Touraine-Poitou, de nous faire un petit bilan sur sa région. On va l'écouter.
Oui, effectivement, année catastrophique. La référence dans les années cata, c'était 2016. Et là, on est dans bien des situations inférieures à 2016, avec des rendements qu'on n'a même parfois jamais connus, des 25 quintaux en céréales à paille et des parcelles de colza qui n'ont parfois même pas été récoltées. Donc, année cata, oui. Alors, il y a quand même une différence, il y en a quelques-uns qui sont sortis du lot. C'est essentiellement lié au type de sol. Les argilo-calcaires, par exemple, ont bien mieux supporté les 4 mois de pluviométrie de l'hiver dernier. Et sauf matraquage des sols ou mauvaise protection insecticide, on est pour ces situations-là sur une année normale avec des blés qui peuvent faire entre 75 et 90 quintaux. L'autre, c'est les semis aussi les plus tardifs. Les orges de printemps qu'on sème dès le début décembre, les blés durs, ont réussi aussi à passer un petit peu à travers toutes ces difficultés et sortir un petit peu du lot. Et en Touraine-Poitou, il y a beaucoup d'exploitations qui ont une assurance climatique parce qu'on a des grosses variations de rendement. Mais les expertises en cours font déchanter un petit peu les gens, les assurés. Et une des conséquences de cette mauvaise récolte 2020, c'est qu'elle va rejoindre l'année 2016 dans le calcul des 5 dernières années pour la future moyenne olympique des prochaines années, enfin de la prochaine campagne. Et ça va nous tirer les rendements vers le bas, que ce soit pour les assurances climatiques ou pour le calcul azoté du plan de fumure.
Christian Lambert, si on étend à l'échelle nationale, on retrouve des chiffres peut-être pas aussi mauvais quand même.
Ah, en blé, c'est pas bon. Hein. On est repassé en dessous de la barre des 30 millions de tonnes produites en France. La production de blé augmente sur tous les continents. Elle ne baisse qu'en Europe. On a, nous, une sécheresse qui est gravissime. Hein. La Russie caracole avec des rendements pas possibles. Et oui, c'est vrai qu'il y a de l'irrégularité, monsieur a raison de le dire, mais globalement, il y a des baisses. Et ça fait très mal dans certains secteurs. Sur le blé dur, globalement, au national, ce qui est affiché, c'est moins 17%. Sur le colza, c'est diminution de 4%, mais il y avait déjà une diminution de 30% l'année dernière en volume sur 2019 par rapport à 2018. Donc c'est vrai que le secteur céréalier en ce moment est à la peine. Et ceux qui sont assurés, monsieur a raison de le dire, respirent un peu parce qu'il y aura des compensations économiques. Ils n'ont pas la moisson, mais ils ont quelques compensations. Et lorsqu'il évoque aussi cette difficulté de rendement toujours à la baisse qui dégrade la moyenne olympique, ça fait partie des choses que l'on travaille à changer pour avoir un lissage et des moyennes sur beaucoup plus long et peut-être venir à des références régionales, même si aujourd'hui chacun s'accorde à dire que c'est très compliqué d'avoir des références régionales dans le contexte. Mais en tout cas, on a grosso modo 26% des céréaliers qui sont assurés. Certains départements, c'est 40%, d'autres, c'est beaucoup moins. Comme les sécheresses vont se répéter, c'est évident. Je pense que le principe de précaution appliqué à l'agriculture, c'est effectivement de souscrire un contrat. J'ajoute quand même qu'on peut aussi faire des rachats de rendement par rapport à sa région. Enfin, il faut regarder très près les dispositifs. Il y a quand même aussi aujourd'hui des aménagements possibles.
Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Mais la cata, ce n'est pas forcément partout. François Arnoux, alors tu es un cas particulier en Vendée. Je l'ai déjà dit, tu as pris des risques cette année, beaucoup de risques. Et cette année, ça a plutôt payé. Raconte-nous.
Oui, en quelques mots, donc nous on a, enfin comme tout le monde dans beaucoup de régions, on n'a pas pu semer donc aux dates dites normales, c'est-à-dire d'octobre à mars. Et malgré tout, on a donc pris le risque de semer fin mars dans nos marais le blé dur, ce qui était inédit. Donc on partait complètement à l'aveugle, on savait pas du tout ce qu'on pouvait espérer. On espérait peut-être 30, 40, 50 quintaux quand on fait 75 d'habitude. On s'est dit tant pis, les structures sont abîmées, il faut absolument semer une culture d'hiver, enfin, qui était au printemps, mais on peut pas tout reporter sur des maïs ou du tournesol parce que si l'automne est pluvieux, on aura des problèmes à la récolte. On va massacrer les terrains et là, on va le payer cash pendant plusieurs années. Donc, on a été sur plusieurs milliers d'hectares, plusieurs donc à semer du blé au mois de mars. après ces 5 mois de pluie, hein, ça représentait plus d'une année de pluie en 5 mois, comme dans beaucoup de régions. On a pris ce risque-là, pas de chance, on a été suivi de 7 semaines de sécheresse, donc ces fameux blés, en fait, n'ont levé que début mai. Donc, scénario encore plus catastrophe. Et puis, comme tout s'est enchaîné derrière, eh bien, le 10 mai, on a eu 120 mm, donc après, ils étaient sous l'eau. Le 10 juin, on a eu 80 mm sur une semaine. Mais malgré tout ça, en fait, moi, je les voyais à 10, 20 quintaux début juin. Ça a contribué quand même, ces deux gros coups d'eau, à refaire la réserve des sols, et ce qui leur a permis de pousser malgré la canicule, malgré la sécheresse derrière. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des résultats qui sont très hétérogènes, qui vont de 40 à 80 quintaux, si on doit donner des chiffres. Mais les moyennes d'exploitation se retrouvent quelques pourcents en dessous leur moyenne quinquennale ou décennale. Et ce qui fait qu'au final, on a quand même bien fait. Et on a surtout aussi une très, très bonne qualité, qui est importante pour le blé dur. On a aussi semé parce qu'il fallait absolument que les acheteurs habituels trouve du blé dur sur le territoire français. Christiane l'a dit, hein, les surfaces étaient déjà en baisse, les rendements sont en baisse. Donc c'était important quand même de pouvoir fournir nos acheteurs habituels pour pas qu'ils se détournent vers d'autres pays. C'est plus facile de perdre un client que de le garder. Donc c'était important pour nous aussi d'avoir de la marchandise. Donc effectivement, Jean-Paul, la météo a été très dure, mais au final, elle a été assez sympa pour qu'on puisse récolter que la semaine dernière, qui est complètement inédit, juste avant les orages d'ailleurs, de pouvoir récolter en quantité correcte et en qualité. Et donc on a nos fameux 10 000 sachets de pâtes à l'hectare, qui est à peu près la moyenne des années dites normales. C'est sur 110 jours, on a eu du blé dur. Voilà.
Et pour la prochaine campagne, le blé dur sera en novembre ou en mars?
Alors, effectivement, je crois qu'on va pas s'amuser tous les ans à reconduire ce genre de risque. En tout cas, ça fera quand même un précédent. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la date de semis idéale va se balader entre novembre et mars. Mais on sait tous que sur une année normale, on va reprendre des dates dites normales, donc novembre, décembre, janvier. Ça nous est déjà arrivé de semer en février. Mais au 20 mars, voire début avril, hein, moi j'ai dans une parcelle là que j'ai semé le 2 avril, c'était complètement risqué.
Une histoire.
Tout ça pour dire que, pardon.
Non, non, mais c'était juste pour tout finir ça. en disant une histoire qui partait mal, mais qui finit bien au final. Et les tontons farmeurs, chaque semaine, on vous demande de bosser. Il faut qu'on avance dans l'émission. Alors, c'est vrai que vous allez faire deux propositions pour améliorer, comment pourrait-on dire, un peu l'existant. Johan, toi, tu pars du constat, et on en parlait tout à l'heure, que l'assurance récolte, ça ne convainc pas forcément tous les agriculteurs. Quelle est ta proposition d'amélioration?
Moi, je partais du constat que sur mon exploitation depuis 2016, c'est quand même assez... C'est assez irrégulier au niveau des rendements, avec des très forts extrêmes dans tous les sens. Par chance, cette année, je suis pas aux extrêmes vers le bas de 2016, mais j'ai quand même une moyenne olympique qui est fortement dégradée. Et tous les ans, au moment de signer le contrat, la question se repose de savoir si c'est encore rentable de prendre l'assurance récolte. Et jusqu'à présent, je suis reparti pour la prendre en me disant, en tant que chef d'entreprise, il faut quand même assurer la pérennité de la trésorerie en cas de coup dur. Mais quand j'entendais là, ce que disait Christiane tout à l'heure, 26% des exploitations assurées au niveau national, c'est quand même très compliqué. D'un autre côté, l'État a le fonds calamité. Et la question que je me pose, c'est dans les discussions là, sur la future PAC, est-ce que ce ne serait pas possible pour l'État et les différents partenaires agricoles de réfléchir à redonner de l'équité entre tous les producteurs et fusionner les deux systèmes? À ce que l'État rentre encore plus dans le système d'assurance récolte pour permettre de constituer un capital par exploitation pour en cas de coup dur et pas uniquement de la sécheresse, mais également on parlait des catastrophes là sur les colzas. C'est pas des problèmes climatiques, c'est des problèmes d'insectes avec des résistances aux insecticides. Et moi je vois sur la Côte d'Or, il y a des exploitations qui vont plus pouvoir faire de colza. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, donc il y aura vraiment un gros besoin en assurance récolte et il y a une grosse réflexion à mener à ce niveau-là.
Un capital risque calamité à l'échelle de l'exploitation, Christiane Lambert, une bonne ou mauvaise idée?
Bonne idée, et ça fait partie des sujets que nous allons débattre le 10 septembre lors de notre deuxième jour de congrès qui tiendra à Paris et pas à New York comme c'était prévu. Notre rapport d'orientation est consacré au changement climatique et s'intitule « Faire du défi climatique une opportunité pour l'agriculture ». Donc, avec beaucoup de lucidité et de courage, mettons à plat tous les problèmes rencontrés et des pistes de solutions, dont celle-ci. Et évidemment, nous travaillons pour améliorer le dispositif, ça, il faut en être convaincu. Mais il faut aussi, si on veut plus de moyens, se dire est-ce qu'on est capable de basculer un peu, beaucoup, plus du premier vers le second pilier. Certains pays ont fait le choix de consacrer un peu plus à l'assurance. Ça ne va pas être tout de suite, ça ne fera pas 15-20%, ça ne fera pas 10%, mais la question mérite d'être posée. Il faut améliorer le dispositif, il faut inciter plus d'agriculteurs à s'assurer. Le fonds de calamité, je rappelle que les critères sont de plus en plus difficiles. Le ministère, l'administration centrale conteste de plus en plus les chiffres départementaux et déboute un certain nombre de départements. Et dans le meilleur des cas, les gens sont payés un an après. Voilà. Et j'ajoute quand même qu'on a obtenu aussi il y a 2 ans l'épargne de précaution. Les bonnes années, on peut mettre de l'argent de côté. C'est aussi une forme d'assurance personnelle. Mettre de l'argent de côté quand ça va bien, défiscaliser et exonérer de cotisations sociales sur ces stocks, puisque c'est bien en industrie également, sur des montants qui sont quand même plus importants qu'ils n'étaient auparavant, avec transparence GAEC. Donc ça donne des leviers de gestion fines des exploitations, mais la gestion du risque et le pilotage des exploitations en situation de risque, évidemment, c'est quelque chose pour le quoi il faudra de la formation et de l'accompagnement pour les agriculteurs. Tous les agriculteurs n'ont pas la même réaction au risque. Il y a une aversion au risque de la part de certains, et puis d'autres qui sont un peu plus fonceurs ou ont moins peur. Mais je crois que par la partie formation et accompagnement, il y a des gens qui font des choses très bien d'ailleurs.
Et toi, Paul, ton idée, c'est partir du principe que l'innovation vient surtout des agriculteurs. Explique-nous.
Oui, donc on reprend un petit peu le constat année cata. Alors cette année, on parle du climat, on va parler, il y a quelques années également, volatilité de prix, baisse de prix, cadre réglementaire, on vient d'en parler. Enfin bon, voilà, on rentre quand même dans une volatilité générale et une complexité assez générale de notre agriculture. Moi, ce que je constate un petit peu, c'est que les fermes, notamment en grande culture, qui s'en sortent le mieux, ou aujourd'hui sont celles qui ont entamé une transition dans leur technique, et notamment en allant vers l'agriculture de conservation, hein, vers les engrais verts, vers plus de rotation. Par rapport à ça, il faut que les agriculteurs échangent entre eux. Et ce que je constate, c'est que cette transition est de plus en plus portée par les agriculteurs eux-mêmes, au travers notamment des digitales, que ce soit WhatsApp, les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, TalkAG, FarmLip, ainsi de suite. À l'inverse, les institutions traditionnelles, on va dire, sont... je veux dire dépassées aujourd'hui, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, qu'elles n'arrivent pas à aller dans cette rapidité de la transition, qu'elles n'arrivent pas à apporter suffisamment de conseils et que surtout elles n'arrivent pas à créer une émulsion par rapport à ça et par rapport à leurs moyens de communication. Donc moi, ma proposition a été la suivante, hein, c'était pourquoi ce transfert de connaissances, ce transfert du savoir agricole ne serait pas rétribué au niveau des agriculteurs par une baisse des CVO, les CVO qui servent à financer le développement des filières, et donc la technique agricole, si aujourd'hui cette transition-là est de plus en plus portée par l'agriculteur, je trouve qu'il serait normal qu'il en soit rétribué pour ça, par rapport à ça. Alors, quelle solution prendre? On peut en imaginer plusieurs, hein. Que ce soit une exonération de la CVO ou un chèque qu'il reçoit en fonction du partage de connaissances et d'informations qu'il donne.
Accélérer le partage des connaissances en récompensant quelque part avec un avantage financier les agriculteurs qui diffusent le savoir, pourquoi pas? Est-ce que c'est une bonne idée, Christian Lambert?
Aujourd'hui, enfin, beaucoup de choses, on a accès à beaucoup de choses gratuitement sur Internet. Il y a des sites de partout. Alors, il y a des bonnes infos et des mauvaises infos, il faut trier. Mais il y a quand même une habitude du public d'avoir accès gratuitement à beaucoup d'informations. D'ailleurs, il y a une désaffection pour certains abonnements de revues techniques, hein, ça ne vous a pas échappé. Faut-il payer ou pas les agriculteurs? Bon, je vois beaucoup d'agriculteurs qui le font, qui sont extrêmement fiers de le faire. Qui ne demandent pas forcément à être exonérés de telle ou telle taxe. On a aussi dans notre profession une habitude de solidarité et de mutualisation, c'est-à-dire que On mutualise des fonds, c'est comme pour les crédits d'information divers, tout le monde paye des cotisations, tout le monde ne se forme pas chaque année, mais chacun peut accéder à des formations gratuites quand il en a besoin. Donc, monétiser...
Oui. Je suis d'accord sur cela. Sauf que aujourd'hui, si on n'a pas le sentiment de payer, malgré tout, on le paye quand même au travers des taxes qu'on paye. Et le savoir de plus en plus qu'on a besoin, c'est qu'une majorité de personnes partagent. Or, comme vous l'avez souligné, c'est une minorité qui partage aujourd'hui. Et si on avait une majorité, on aurait quand même un regard bien plus fin sur les opportunités, sur les choses à ne pas faire, sur les choses qui marchent. Et pour ça, pour que les gens partagent, il faut également les inciter à partager leurs informations.
Oui, puis Paul, il faut être clair. Ce que tu veux dire aussi, c'est que les agriculteurs ont été à l'origine des TCS, des cultures sous couvert, etc. Et ce n'est pas les instituts qui, au départ, ont boosté ces sujets. Ils ont suivi, mais ils n'ont pas boosté. Christian Lambert.
Et moi, je les trouve aujourd'hui clairement, je prends parti là-dessus, mais je trouve qu'ils sont dépassés par cette transition-là. Alors, ils essayent de l'accompagner tant bien que mal, mais malgré tout, ils ne sont pas au cœur de cette transition, de cette transition-là. Et si c'est les agriculteurs qui font le job, pourquoi ne seraient pas-ils rémunérés pour ça ?
Christiane.
Sur les impasses, c'est comme sur les impasses ou la sous-considération d'un certain nombre de sujets. Les bio se plaignent d'avoir été sous-considérés un certain temps, que l'INRA leur donnait pas assez de références, que les chambres ne s'occupent pas assez d'eux, etc. Aujourd'hui, les chambres d'agriculture accompagnent énormément d'agriculteurs en conversion bio. Un bon nombre de chambres d'agriculture ont déconseillé et accompagnent l'agroforesterie. Tous accompagnent la gestion plus compliquée des intrants, les plants éco-phyto, et beaucoup ont mis en place des référents en agriculture de conservation des sols, en partenariat ou pas avec BAS ou avec l'APAD, qui sont des structures qui aujourd'hui ont pignon sur rue, font référence, cumulent pas mal de vues lorsque des experts s'expriment. J'ai eu moi la chance d'être invitée par Frédéric Thomas à l'AG de BAS il y a quelques années, au début de l'hostilité glyphosate. Et donc, il avait trouvé intéressant de faire venir la présidente de la FNSEA pour qu'on parle ensemble et qu'on voit comment on allait lever ce problème d'impasse glyphosate. Je crois que les réseaux gagnent à échanger entre eux, mais moi, je vois aujourd'hui, à propos de l'agriculture de conservation des sols, beaucoup de freins se lever, beaucoup d'a priori tomber. Et justement, les réseaux sociaux ont contribué à ça. Des agriculteurs qui ont témoigné positivement, pas revanchard du tout, mais au contraire très pédagogiques, en montrant des vidéos, des réalisations, des croquis aussi sur les premières années difficiles et sur le retour positif quelques années ensuite, finalement convaincre très bien de cette façon-là. Et comme en plus, ce sont très souvent des militants, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi M. Mandin il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas senti de leur part une volonté de rétribution, mais plutôt l'envie que ça se déploie, que ça se développe. Et c'est vrai que c'est une pratique qui a énormément d'intérêt en matière de carbone, en matière de en matière de biodiversité, de santé des sols. Après, évidemment, ce n'est pas possible dans toutes les régions de France, mais je sais que de plus en plus d'agriculteurs s'y adonnent.
Alors justement, l'agroforesterie, ça pourrait être une solution, il faut qu'on avance sur le débat, pour faire face à la sécheresse, enfin certains le pensent, et notamment Fabien Balaguer, il est directeur de l'Association française d'agroforesterie, vous allez voir, il explique pourquoi l'agroforesterie pourrait contribuer à lutter contre la sécheresse.
Oui, alors l'agroforesterie, finalement, elle s'intéresse à deux problèmes majeurs de l'agriculture, hein, la dégradation des sols et la dégradation des paysages, qui sont deux événements intimement liés, évidemment. Et elle va travailler finalement à trois niveaux. Dans un premier temps, la régénération des sols en carbone. Et en fait, le carbone, c'est-à-dire de l'humus, donc cette éponge en fait, hein, qui retient l'eau dans le sol. Un point de matière organique dans le sol, c'est plusieurs dizaines de tonnes d'humus à l'hectare et c'est entre 100 et 150 mètres cubes de réserve utile en plus, en potentiel. Au niveau plutôt paysager, un petit peu de la gestion des flux hydriques, les arbres vont permettre finalement d'améliorer l'infiltration dans le sol. Donc toujours pareil, hein, d'augmenter le flux entrant pour recharger cette réserve utile en eau. Et par ailleurs, ils vont avoir un effet microclimatique, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont tempérer les extrêmes. Ils vont permettre de limiter la transpiration, ce flux sortant improductif, pour finalement améliorer le bilan et donc permettre à des fermes de mieux résister à la sécheresse. Hein, c'est à l'échelle de la parcelle, mais c'est aussi à l'échelle du paysage, encore une fois. Mieux résister à la sécheresse et finalement passer des sécheresses dans des contextes climatiques qui, on le sait, ne sont pas faciles.
Alors, c'est vrai qu'on va être peut-être pris en ciseaux. L'année a été cata en 2016. En 2020, elle n'est pas bonne, loin de là. Et c'est vrai que malheureusement, les agriculteurs ont beaucoup investi dans le matériel en 2019. On va avoir des tensions en matière de trésorerie terribles. Il faut rappeler qu'en 2019, c'est la France qui a le plus acheté de tracteurs neufs et il va falloir les payer un jour. Et de même, le 14 août dernier, un certain nombre de mesures exceptionnelles ont été annoncées par le ministre. Valorisation des jachères, avance, aide de PAC, report des cotisations MSA. Mais tout ça, il va falloir le payer, le rembourser un jour ou l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour s'adapter à ce contexte qui devient de plus en plus compliqué? Qui prend la parole?
Moi, j'ai envie de dire, on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut regarder ce qui marche aussi aujourd'hui. On parle d'investissement matériel, d'années compliquées. Alors, je ne dis pas que l'agriculture de conservation est la panacée pour tous les terroirs et toutes les agricultures, mais quand on arrive à réduire son coût de mécanisation, quand on arrive à restructurer son sol, quand on arrive à augmenter son taux d'humus, sa réserve en eau, mais forcément, on va mieux s'en sortir derrière. Et ça, aujourd'hui, je suis convaincu, comme disait Madame la Présidente, c'est que beaucoup d'agriculteurs y pensent et veulent s'y lancer. Mais le plus compliqué, c'est pas la volonté, c'est de le faire et d'être rassuré dans ce qu'on fait. Parce que le changement, on est sur des cycles longs, ça prend du temps et les changements sont structurants dans nos activités. Et de discuter à plusieurs, d'échanger en groupe et des groupes assez nombreux permet d'être rassuré. Et c'est vraiment ça aujourd'hui. En tout cas, moi, je le vois au niveau de nos agriculteurs avec la filière qu'on a montée. Les gens ont besoin aussi d'être rassurés, de savoir ce que fait le voisin, de ce que fait le collègue avec des terres relativement similaires sur certaines problématiques techniques, comment ils peuvent s'en sortir. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est le partage entre agriculteurs qui arrive à le faire.
D'accord. Christine Lambert, en une minute, en une phrase plutôt.
Tout à fait. Beaucoup trop d'agriculteurs doutent lorsqu'ils sont tout seuls. Les problèmes des uns sont les problèmes des autres, mais les solutions des uns deviennent les solutions des autres. Et faire intervenir un certain nombre de personnes sur les réseaux sociaux, dans nos réunions, pousser les gens à sortir de chez eux et à chercher des solutions ensemble. Et le climat qui change nous appelle à certains changements organisationnel aussi. Donc, vous dépoussiérez probablement certains modes de fonctionnement. Enfin, en tout cas, la FNSE a les portes et les fenêtres sont ouvertes. Nous en débattrons le 10 septembre et tous les sujets que nous avons évoqués aujourd'hui seront à l'ordre du jour.
Alors, il y a des questions de différents auditeurs. David Lalonnier, un gars de Vendée, demande: peut-on espérer une même dérogation des néonicotinoïdes pour le glyphosate? C'est pas gagné, ça.
Pour le glyphosate, quand même, le président de la République a reconnu pendant les Gilets jaunes, là où il y a un impasse, il faudra des dérogations. Alors, il a cité un certain nombre de cas. L'INRA lui-même avait cité un certain nombre de cas où il fallait dérogations, les vignes et les vergers en pente, les semences, les légumes industrie, l'agriculture de conservation des sols, bien sûr, les noix noisettes. Il faut regarder. Alors, monsieur le ministre de l'Agriculture nouveau, Julien de Normandie, a aussi dit 30% des agriculteurs ont déjà fait des efforts, mais ne peuvent pas s'entasser, etc. Enfin, moi, je pense qu'ils ne pourront pas faire une interdiction sèche au 1er janvier 2021. Il y a les prémices de ça. Maintenant, il va falloir le porter. Et là aussi, général, d'où la nécessité de pédagogie et de dialogue avec les ONG. Vous savez, aujourd'hui, le débat, c'est est-il possible de discuter entre agriculteurs et écologistes? La réponse est forcément oui, mais il y a quand même énormément de propos condescendants ou insultants qui ont circulé sur les réseaux sociaux ces deux derniers jours qui pourraient couper l'envie aux plus volontaires. Et moi, je ne me désespère pas. Je connais des écologistes de terrain sérieux avec lesquels on arrive à travailler et on va repartir à la bataille avec cela.
Ouais, la dérogation.
Moi, je voulais rebondir sur les NNI et puis le glyphosate, c'est que Il faut quand même se servir de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe sur la filière sucre. Il ne faut pas attendre d'être dans le mur pour dire maintenant, eh bien, il faut prendre une solution. Et ce qui se passe cette année sur les céréales, eh bien, il y a des régions où on peut quand même attribuer ça à la disparition des nénis sur la protection de semences, parce que évidemment, on a la solution de pouvoir traiter en plein, mais c'est moins efficace. Ça redevient du systématique. On a retardé les dates de semis pour essayer d'esquiver tout ça. Bilan des courses, quand il pleut, ben on ne peut plus aller semer. Donc, je pense que la mauvaise récolte est aussi liée à ces phénomènes. On a aussi de moins en moins de produits. Il fallait quand même, c'était pas compliqué de voir dans les champs que c'était cette année, il y avait plein de régras parce que les produits qu'on a aujourd'hui ne fonctionnent moins. Et puis que c'était pas facile d'appliquer. Donc, il n'y a pas que le climat, il y a tout ce qui nous tombe dessus tout le temps, qui nous pose problème. Et je pense qu'il faut vraiment pas attendre d'être dans le mur pour dire il va falloir faire quelque chose. Et nous, aujourd'hui, si j'ai réussi à faire quelque chose dans le blé dur, c'est parce que j'ai encore glyphosate dans le marais. Demain, j'ai plus de glyphosate, c'est terminé. On parle plus de blé dur. Et combien aujourd'hui sont concernés comme ça? Et évidemment, avec le labour et tout ça, mais on s'en sort pas. Il nous faut encore le glyphosate.
Bon, allez, donc, on est arrivé au terme de cette émission. Je suis désolé, 19h40, c'est la fin de l'émission. Il faut savoir s'arrêter. Je tenais bien sûr à remercier tous nos invités à l'association CoFarming aussi qui nous a aidés pour cette émission. Et je vous remercie, vous, les fidèles auditeurs de notre chaîne Powerboost sur YouTube. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur TV Agri pour la semaine prochaine, donc mardi 25 août à 19h précise, pour l'émission Les Tontons Farmeurs. Et puis, bien sûr, je vais remercier nos partenaires sans qui cette émission n'existerait pas. Il s'agit de la Banque Populaire et du groupe Agrica. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne semaine et puis croyez dans l'agriculture. Bonne semaine à tous.
Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir.
Merci. Mm-hmm.